Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. J'évoquais au début de la séance précédente l'autel d'or de la basilique Sant'Ambrogio de Milan et j'avais promis de vous le faire voir aujourd'hui. Le voici, donc la lumière va progressivement s'estomper. Pour vous faire voir donc ce dont je vous parlais la fois dernière, c'est-à-dire ce monument qui est un monument au sens propre, c'est-à-dire qu'il porte la mémoire d'Ambroise, tant il est vrai qu'au sens propre, c'est un monumentum du point de vue latin, c'est-à-dire un mausolée, puisque le corps d'Ambroise se trouve sous l'autel d'or qui a été commandé par l'archevêque de Milan, Angilbert II. Je vous avais dit que du côté des fidèles, eh bien, 12 scènes du Christ étaient repoussées dans le métal, en or, et du côté de l'abside, du côté donc du célébrant, 12 scènes également, mais de la vie d'Ambroise. Je vous avais dit aussi, mais toujours sans vous le faire voir, qu'il y avait une fenêtre qui ouvrait précisément sur le corps d'Ambroise, qui était pris dans le sarcophage, et que cette fenêtre désignait justement la dédicace à la fois de l'Église, puisque ici, c'est ce Angilbert, Angilbertus, cet évêque de Milan, franc, qui donne, vous voyez, sa dédicace, c'est-à-dire au fond, la maquette de l'Église, à Ambroise lui-même, mais ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c'est que cette dédicace est dédoublée et l'artiste, ce magister, ce Volvinus magister, Faber, c'est moi qui l'ai fait, c'est-à-dire l'orfèvre, donne aussi son œuvre à Ambroise qui le couronne de gloire. Et si j'avais parlé de ça la fois dernière, dans cette séance qui était consacrée à la vie d'Ambroise, c'est-à-dire la biographie chrétienne de cet évêque, c'est que l'autel d'or est comme la mise en image de la Vita Ambrosi de Paulin de Milan, dont j'avais tenté de vous présenter les singularités. Les séances commencent toujours par un bref résumé des chapitres précédents. La première et quasiment la seule vie latine d'Ambroise est aussi la première et quasiment la seule biographie d'un évêque en Italie. Quasiment la seule parce que, comme je vous l'avais dit, l'autre exemple, ainsi que l'a montré Stéphane Giovanni, est la vie de l'évêque de Pavie Épiphane, Kénode, au VIe siècle. Kénode est un diacre de Milan qui, comme tant d'autres, s'est rêvé en nouvelle Ambroise. Kénode, donc, au début du VIe siècle, a rédigé. Mais la différence entre la vie d'Épiphane par Kénode et la vie d'Ambroise par son secrétaire, qu'il avait côtoyé, Paulin de Milan, la différence, et elle est de taille, c'est que l'historicité d'Épiphane, pour être poli, est des plus évanescentes. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas absolument persuadé qu'il ait existé. Or, à la question que Jacques Le Goff posait à propos de Saint-Louis, « Ambroise a-t-il existé ?», la réponse est oui. Et ça fait une différence. Parce que qu'Ambroise ait existé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'historiens? Ça veut dire que l'on peut dire de ce que fut sa vie quelques éléments de ce que j'ai appelé la semaine dernière ce bloc faillé, d'où, d'une certaine manière, se réduit quelques éclats d'existence, des fragments, de ce que j'ai proposé d'appeler à la fin de la séance avec Roland Barthes des biographèmes. C'est-à-dire que puisque la vie fait bloc, mais puisque la vie d'un homme, on ne l'aperçoit que comme un bloc faillé, alors ces fragments d'existence, ces moments, ces détails, ces scènes où viennent se diffracter la singularité d'une vie et qui, une fois dispersées, vont se déposer sur d'autres corps, sur d'autres vies, sur d'autres objets, sur d'autres lieux, et ainsi proprement faire mémoire, ces biographèmes, donc au sens de Barthes, eh bien, ils forment les fragments d'une vie qui permettent effectivement de faire l'histoire d'une mémoire. Et précisément dans cet hôtel d'or, sa face postérieure, eh bien, il y a 12 éclats de vie, 12 moments de la vie d'Ambroise qui sont justement directement inspirés, et plus qu'inspirés, démarqués de la vie de Paulin de Milan. La première scène que je voudrais vous montrer représente le miracle des abeilles. Paulin de Milan a décrit ce présage au cours duquel un essaim d'abeilles s'élève de la bouche d'Ambroise et puis monte au ciel et puis redescend à nouveau dans sa bouche comme si il devenait une ruche vivante. Alors évidemment ses parents s'inquiètent, mais son père rapidement comprend qu'il s'agit d'un présage. Ça veut dire que un destin est promis à Ambroise. Il va parler. Il va devenir ce professionnel de la parole qui s'élève au ciel, comme effectivement ces rayons de lumière que tracent dans l'azur les abeilles. Ainsi s'accomplira la promesse de l'Écriture. Les beaux discours sont un rayon de miel. Promesse qui réside déjà dans le nom d'Ambroise, vous vous en souvenez peut-être, qui dit la suavité mielleuse d'un doux parfum d'ambre. Ce parfum d'éloquence, vous vous en souvenez, avait envoûté Augustin. Et si vous ne vous en souvenez pas, lui s'en est souvenu, et nous nous souvenons d'Ambroise à travers le souvenir qu'en eut Augustin. Ce thème de l'éloquence sacrée, eh bien justement, il est, je dirais, dans le tronc commun de ce que j'ai appelé, avec Glenn Bowersock, le mentir vrai de la tradition romanesque tardo-antique, un tronc commun à partir duquel s'embranchent différents buissonnements narratifs. On le voit à la fois dans les vies de Platon, de Pindare, de Virgile, et donc différents rameaux peuvent effectivement se bourgeonner à partir de ce tronc commun, des vies païennes de l'époque impériale, par exemple les vies des philosophes, la tradition juive avec les vies des patriarches de Philon d'Alexandrie et la tradition chrétienne évidemment avec les apocryphes d'apôtres. Donc au fond, tout cela, ce thème de l'éloquence en rayon de miel, vous voyez qu'il est commun à toute la littérature tardo-antique, païenne, juive, chrétienne. Ici, l'image s'écarte légèrement du récit d'Ambroise, de Paulin de Milan, parce que Paulin de Milan décrivait ce présage arrivant à un infans, c'est-à-dire un bébé. Or, ici, c'est d'ailleurs marqué sur le titulus, c'est un puer. Ce qui, d'ailleurs, donne lieu à cette embarrassante discordance iconographique où on a quand même quelqu'un d'une certaine taille qui est apparemment dans un berceau. Pourquoi cet écart ? Eh bien, parce que cet épisode de la vie d'Ambroise était réutilisé fréquemment dans les vies carolingiennes et jusqu'à la vie de Charlemagne lui-même par Notker le Bègue comme ayant déjà été ayant eu lieu chez justement les jeunes carolingiens, les jeunes souverains. Et donc, vous voyez comme c'est intéressant, le modèle ici s'applique et s'adapte à ces imitations, impériales. La seconde image, seconde scène sur laquelle je vous propose de vous arrêter un instant est la septième dans l'ordre du déroulement narratif du cycle ambrosien, des 12 donc dont j'ai parlé, de l'autel, et qui représente Ambroise, toujours assistant aux funérailles de Saint-Martin, l'évêque des Gaules et évangélisateur. Alors ici, le programme s'éloigne franchement du modèle textuel de la vie de Paulin, comme l'a montré Pierre Courcelles. Paulin n'évoque pas cet épisode étrange où, Augustin aurait été aux funérailles de Saint-Martin pour une raison assez simple. Ambroise avait un solide alibi pour ne pas aller aux funérailles de Martin, c'est qu'il était mort. Voilà. Quelques mois avant, il est mort le 4 avril 397 et Martin de Tours le 8 novembre de la même année. Donc celui qui a inventé cette histoire où Ambroise, au moment de mourir, a un pressentiment et fait le rêve que Martin de Tours en Gaule est en train de mourir, alors il s'y transporte miraculeusement, c'est Grégoire de Tours, justement, c'est-à-dire celui qui va fixer la légende franque Martin. Mais on est au VIe siècle. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans l'abside, qui est, si on en croit les travaux de Carlo Bertelli, à peu près contemporaine de l'Hôtel d'Or, c'est-à-dire du temps d'Angilbert II, la moitié du IXe siècle, eh bien, cette mosaïque de l'abside présente avec plus d'emphase encore cette scène imaginaire, pour le coup, puisque Ambroise semble, qui est marqué là, Ambrogio, semble officier lui-même aux funérailles de Saint-Martin. Alors, ce rapprochement entre Saint-Martin et Ambroise est évidemment hautement politique, puisque Martin est le saint protecteur des Francs. Et donc, en faire le frère spirituel d'Ambroise revient à exprimer l'indéfectible fidélité de l'Église milanaise à l'ordre carolingien au moment où, effectivement, Angilbert met en scène cette politique de mémoire très intéressée. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, et qui n'aura qu'un temps, puisque le moment effectivement carolingien de où l'Église milanaise est intégrée à l'Empire carolingien disparaît très vite. Et on comprend bien à ce moment-là pourquoi justement la vie de Paulin de Milan ne suffit plus à la mémoire carolingienne d'Ambroise. Pourquoi ? Parce que la vie de Paulin, la vie d'Ambroise par Paulin de Milan, c'est de manière continue l'histoire politique d'un évêque qui s'oppose à l'empereur, à tous les empereurs, plus ou moins selon les empereurs, mais avec opiniâtreté, et qui défend, au fond, contre le pouvoir impérial et surtout contre la prétention impériale à manipuler le dogme, l'autorité épiscopale. Donc, ça, c'est vraiment le thème, la basse, sourde, obsédante de cette vie d'Ambroise. Et c'est, évidemment, ça fait désordre à l'époque carolingienne. On ne veut pas entendre ça. Et ce qu'on veut entendre, au contraire, c'est le fait qu'Ambroise a été le marteau des hérétiques, comme on dit, c'est-à-dire celui qui s'est opposé à l'hérésie. Sauf que, pour Ambroise, s'opposer à l'hérésie et s'opposer à la prétention impériale à intervenir dans le dogme, c'était tout un, puisque, justement, l'arianisme, c'est-à-dire cette hérésie christologique qui nie la double nature du Christ, dont on a parlé la fois dernière, l'arianisme est une hérésie impériale, est une hérésie décidée par l'État impérial. Donc on comprend très bien, à ce moment-là, que la vie de Paulin de Milan, vie écrite par Paulin de Milan de celui qu'il avait connu, ne suffit plus à construire un Ambroise utile, politiquement utile aux Carolingiens. Et c'est pourquoi il y a une autre vie qui circule, qui est cette vie anonyme, la De Vita et Meritis Ambrosii, auquel j'avais fait quelques allusions la semaine dernière, qui justement, elle, intègre cet épisode martinien, dans un déroulé narratif essentiellement dépendant de Paulin de Milan, et où alors ça pose des problèmes de datation un peu délicats, Il y a un manuscrit de la fin du IXe siècle, mais si j'en crois les travaux tout récents de Paolo Tomea, la Vita anonyme d'Ambroise, carolingienne, qui n'existe qu'à un témoin manuscrit, ce qui implique qu'elle n'a pas du tout circulé, qu'elle n'a eu aucun impact dans une tradition hagiographique qui reste, on l'a dit la semaine dernière, majoritairement, effectivement, dominée par Paulin de Milan. Au fond, sa commande et sa rédaction doivent être contemporaines de l'Hôtel d'Or et de la basilique et de la mosaïque. Donc c'est, je dirais, une entreprise concertée d'une politique carolingienne de la mémoire. Mais comme, au fond, le moment carolingien, c'est un faux départ, pour Milan comme pour l'Occident, tout ça tombe très vite dans l'oubli et se reconstitue ce qui va devenir disponible dans la mémoire d'Ambroise, disponible à partir du XIe siècle, à d'autres réemplois, à d'autres appropriations, qui est le fait que Ambroise a lutté contre l'hérésie, donc contre l'autorité de l'Empire, de l'Empereur, qu'il a défendu la libertas de l'Église, donc la libertas tout court, la liberté. Or, cette libertas de l'Église, c'est celle dont va s'emparer l'époque communale à partir du XIIe siècle, précisément en faisant retour sur cette histoire ecclésiale et avec une facilité qu'on comprend très bien, puisqu'ils ont à ce moment-là le même ennemi, qui est l'empereur. Alors, c'est pas le même, évidemment, c'est Frédéric Barberousse, auquel on doit arracher, évidemment, les privilèges de ce qui va devenir l'autonomie communale, mais l'histoire va reprendre au XIe siècle. Et de cela, évidemment, nous aurons reparler. Qu'en conclure du point de vue, je dirais, de ce que j'ai appelé les biographèmes, et je fais donc une pause dans les images. Sur le plan doctrinal, la théologie d'Ambroise marque l'achèvement de la christianisation de la figure impériale. L'empereur est le fils de l'Église, écrit-il dans son sermon Sermo contra Auxentium, et l'évêque est son père. Bon, comme d'ailleurs les pères de l'Église eux-mêmes se disent fils de leur mère, ils sont les pères de leur mère, ce qui, comme le montre Pierre-Emmanuel Dosa dans son essai sur l'esprit de contradiction des pères de l'Église, eh bien, montre un trouble dans le genre, disons, comment on peut être le fils et le père de sa mère, l'Église. En tout cas, évidemment, c'est ce qu'on retient de la doctrine d'Ambroise. Mais ne l'imaginons pas poursuivre durant toute sa vie politique le dessein de soumettre le pouvoir de l'empereur à l'autorité de l'évêque. En fait, il improvise, il est dans une situation incertaine, il réagit au cas par cas, au coup par coup, il navigue à vue. Au fond, il a affaire dans sa vie à 7 ou 8 empereurs. Hein, ça peut être effectivement des empereurs chrétiens duquel il est très proche, comme Gratien, mais Gratien se fait assassiner. Ça peut être des usurpateurs, comme Maxime, qui l'a fait assassiner, ou Maxence, ou Eugène. Ça peut être carrément des empereurs qui veulent restaurer le paganisme, comme l'extraordinaire Julien l'Apostat, ou ça peut être des empereurs hérétiques, comme Justine l'Arienne, ou le grand Théodose, qui sera évidemment le grand interlocuteur d'Ambroise, puisqu'il fut le dernier empereur à dominer l'Orient et l'Occident. Donc il faut bien comprendre que cette politique, elle est évidemment incertaine, il faut voir texte par texte et comprendre que les écrits patristiques sont toujours des textes de circonstances. Mais de cela, la tradition de l'Église, retiendra une scène, une seule et grande scène qui place Ambroise face, qui fait front, face à, justement, un affront impérial. Quel est-il ? C'est la grande scène de 390, qui est la grande scène de la pénitence imposée à l'empereur Théodose en 390. Théodose avait ordonné le massacre de la population de Thessalonique, qui s'était, la population de Thessalonique s'était révoltée contre le gouverneur de la ville butérique, l'avait lapidé, et furieux, Théodose, qui est empereur et qui réside à Milan, qui est la capitale impériale, faire assembler toute la population dans le cirque et appelle la troupe et massacre tout le monde dans le cirque. La tradition dit que 7000 morts restent sur le pavé, si j'ose dire. Nous sommes à la fin du mois d'août 390. Et le 10 septembre, Ambroise, apprenant cela, l'exhorte à se repentir comme le roi David, ce qui sera fait et permettra donc à l'empereur chrétien de réintégrer la communauté des fidèles à la Noël 390. C'est la scène qui va être ensuite sans cesse représentée, notamment pendant la contre-réforme, puisqu'on voit justement physiquement un empereur qui est au seuil de l'Église et qui va réintégrer la communauté de l'Église parce qu'il a fait pénitence, parce que le gouvernement pastoral de l'évêque l'y accueille à nouveau. Et donc, c'est justement dans son apologie de David, le roi qui a fait pénitence, qu'Ambroise affirme avec netteté que, je cite, « l'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus d'elle. » L'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus d'elle. C'est la grande affaire, évidemment, et de la vie d'Ambroise, et de la Vita Ambrosii, telle que Paulin de Milan l'a rédigée en différents fragments de vie. Et cette grande affaire, elle prend toujours appui sur des édifices, sur des lieux, sur l'enveloppe monumentale d'une grande capitale impériale, comme Milan, qui est évidemment une cité politique où réside l'empereur, mais dont l'évêque, Ambroise, veut faire une ville chrétienne. Et c'est ça la clé, et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Tous ces biographèmes s'accrochent à des lieux, à des monuments, à des basiliques, à la synagogue de Callinicum lorsqu'elle est au bord de l'Euphrate, à l'extrémité orientale de l'Empire, lorsqu'elle est incendiée en 388, à l'autel de la Victoire. L'autel de la Victoire en 389, qui est le dernier grand monument païen et que le préfet Symmac veut réactiver contre, évidemment, la volonté d'Ambroise. On voit qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une sorte de bras de fer entre, justement, ce que les édifices romains, le palais, l'hippodrome, l'autel de la Victoire, les portiques, toute cette enveloppe monumentale qui fait d'une ville, effectivement, je dirais, une configuration de gloire, appelle encore à, justement, une réminiscence impériale, et ce que va faire Ambroise, c'est-à-dire rabattre cette gloire impériale, exactement comme Théodose sera agenouillé au seuil de l'Église, pour transformer la cité de Milan en ville chrétienne. Mais voilà, des monuments, ça résiste. Des édifices, ça ne s'efface pas aussi aisément que des images ou des passages hagiographiques dans la tradition littéraire. Et c'est pourquoi ce dont il sera question dans la séance d'aujourd'hui, qui porte un titre apparemment étrange, la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan, je voudrais m'expliquer quelques minutes sur cette étrangeté, ce titre, la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan. Le souvenir est-il objet d'histoire ? Répondre par l'affirmative consiste à s'emparer d'une notion psychologique pour la livrer au social, puisqu'il ne peut y avoir d'histoire que sociale. C'est toujours un individu qui se souvient. Augustin se souvenait d'Ambroise. Et s'il y a une mémoire ambrosienne qui se transmet de l'événement Ambroise, c'est-à-dire de l'irruption d'une parole dans le cours du temps, c'est d'abord en tant qu'elle s'inscrit et se transmet dans le souvenir individuel. Une société, en elle-même, ne se souvient pas. Ou alors, il faudrait imaginer qu'il existe une psyché collective, ce qui n'est pas le cas des historiens, qui pendant longtemps ont été impressionnés par, je dirais, la position d'Henri Bergson, le philosophe, qui dans Matière et mémoire, qui date de 1896, avait bien démarqué deux types de mémoire. Ce qu'il appelait la mémoire habitude, qui sont les souvenirs mobilisables dans la vie sociale qu'on peut effectivement communiquer pour agir. Bon, et donc c'est par exemple la tradition. Mais il la démarquait strictement de ce qu'il appelait la mémoire pure, des souvenirs accumulés au cours d'une vie et auquel seul l'individu peut avoir accès dès lors qu'il se retire de la société. Je vais m'intéresser quelques instants à un lecteur critique d'Henri Bergson qui se nomme Maurice Halvax et qui est le fondateur de la sociologie de la mémoire. Cette sociologie de la mémoire que je tente d'articuler avec la memoria telle que l'entendent les médiévistes. De Bergson, son maître, Halvax s'inspirait pour travailler à une forme, je dirais, d'introspection prudente, mais il le faisait justement à la lumière de son autre maître en sociologie, qui est évidemment Émile Durkheim. Cette première manière d'être, et ça c'est quelque chose que je trouve touchant, d'être infidèle à ces... d'être infidèle à la lecture de ses maîtres, ce qui est la seule chose un peu digne que requiert l'amitié et la transmission, c'est l'infidélité, ça se lit dans Les cadres sociaux de la mémoire, qui est paru en 1925. Pour la première fois, donc, Maurice Halvax établit la mémoire comme fait social. Pour aller vite, un souvenir est une reconstruction du passé, la recomposition d'une image ancienne, c'est entendu. Et on ne peut se souvenir qu'individuellement. Mais même lorsqu'on se souvient individuellement, on le fait en fonction d'un système de représentation présent au moment où l'on se souvient. Et ce système de représentation est celui d'une société donnée à un moment donné. Et c'est cela qu'on peut appeler les cadres sociaux de la mémoire. Le premier de ces cadres sociaux, c'est le langage lui-même, puisqu'on se souvient dans un certain état du langage. Et cette mise en présence du passé, je cite Halvax dans Les cadres sociaux de la mémoire, 1925, s'accorde à chaque époque avec les pensées dominantes de la société. Alors, dans une lettre qui est datée du 27 avril 1926, belle lettre d'incompréhension, justement, Bergson lui en fait le reproche. Je dois dire que, même après avoir fait le plus grand effort pour me placer à votre point de vue, je n'arrive pas à reporter sur la société ce qu'il y a de spécifique et par conséquent d'essentiel dans la conservation et l'évocation du souvenir. Vous voyez, c'est le point de rupture. Je fais effort, je veux bien adopter votre point de vue, mais j'y arrive pas. Donc Bergson s'arrête là, en tant qu'il est un philosophe et qu'il est un psychologue. Mais donc, Halvax a fait l'effort de se départir de cette grande amitié et de cette grande admiration intellectuelle. C'est trop pour Bergson. Mais ce n'est pas assez pour un autre qui le lit, Marc Bloch. Marc Bloch, toujours en 1925, fait paraître dans la revue de synthèse historique un compte-rendu critique du livre de Maurice Halvax, où il retient une leçon essentielle, je cite Marc Bloch parlant de Halvax, « La société n'interprète ou même ne connaît le passé qu'à travers le présent, et par ailleurs, le présent n'a pour elle de sens concret et de valeur émotionnelle que parce que derrière lui s'entrevoit une certaine durée. » Mais justement, pour l'historien, le chemin n'est qu'à moitié parcouru, puisque Bloch reproche à Halvax de n'avoir pas été jusqu'au bout de cette entreprise théorique qui consiste à arracher la mémoire au psychologue pour la livrer au social, et comme les Durkheimiens, à désigner un phénomène individuel d'un nom collectif sans le penser comme collectif. Et c'est pour répondre à cette objection de Marc Bloch que Maurice Halvax reprend le travail et publiera La mémoire collective, ou pour aller vite, par rapport aux cadres sociaux de la mémoire, le souvenir n'est pas seulement une identification au cadre, mais une interaction avec ces cadres, avec des allers-retours qui forment une dynamique mémorielle. Cet ouvrage, La mémoire collective, est posthume, parce qu'Halvax, peu après son élection au Collège de France, fut arrêté par la police française en juillet 1944, livré à l'occupant nazi, déporté à Buchenwald, où il est mort le 15 mars 1945. Et c'est pour ça qu'il y a ici un amphithéâtre Maurice Halvax, d'un professeur au Collège de France qui n'a jamais prononcé sa leçon inaugurale. Or, la réflexion du sociologue sur les usages sociaux de la mémoire culmine, à mon sens, dans un livre proprement génial, mais qui est paru en 1941, donc dans une indifférence presque absolue, qui s'appelle « La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte ». C'est donc ce livre qui inspire non seulement le titre, mais la démarche de la leçon d'aujourd'hui, parce qu'il est question de la ville, de la manière dont l'on réaffecte les traces du passé au présent de la ville, de la manière dont la ville, dans ses formes matérielles, accumule des souvenirs, des fragments disjoints de passés différents, mais que l'on vit toujours en contemporanéité, selon une analogie qui avait fasciné Freud, mais qui est trompeuse, entre la forma urbis et la forma mentis, entre la forme d'une ville et l'architecture de l'esprit. De quoi s'agit-il ? Dans la topographie légendaire des évangiles en Terre sainte, Maurice Halvax avait choisi de placer ses pas dans ceux du pèlerin de Bordeaux, le premier dont l'histoire est enregistrée l'itinéraire, le premier, au IVe siècle, qui entre dans Jérusalem, qui veut se souvenir évidemment des lieux de la Passion, des lieux du Christ, mais qui ne trouve aucune tradition, et donc qui doit localiser toutes les... la topographie légendaire. Il l'invente au fur et à mesure qu'il la retrouve. Mais l'inventant, il la consolide, il la solidifie, et c'est celle-là que les pèlerins, ensuite, après lui, retrouver. Il l'invente, donc dans cette logique de remémoration, c'est-à-dire qu'il va localiser le souvenir biblique, c'est-à-dire en fait qu'il va écraser la mémoire juive de la ville, et ce qu'il rencontre en chemin, c'est bien ce qu'il appelle la résistance des choses, leur obstination têtue et sonore, parce qu'une ville, ce n'est pas une page blanche. On ne peut pas faire n'importe quoi. Y a des pentes, il y a des accidents de terrain, il y a des anfractuosités, le souvenir s'y accroche, et dès lors, s'accrochant, s'arrimant à des pierres, il n'est plus si aisément manipulable. Les pierres sont comme les obstacles au cours d'un fleuve. Les souvenirs cheminent séparément, parfois peuvent être effectivement séparés par les pierres, parfois peuvent se rejoindre, et au fond, ce qu'il y a, ce ne sont pas des lieux de mémoire, à proprement parler, mais dès lors que le monument, qui n'est rien d'autre que la solidification desséchée d'un souvenir, Dès lors que s'accroche le souvenir à ce monument, il n'y a pas de lieu de mémoire. Il y a des circulations, des réseaux, des correspondances, des analogies, des étoilements. Ce livre n'a commencé à être lu que dans les années 1990, lorsque les sciences sociales se sont emparées du fait urbain, à partir notamment de la problématique de la trace. Il a été lu par un historien comme Bernard Le Petit, qui fut un historien des villes modernes et qui en a été le commentateur subtil. Il a montré que la question de la mémoire et de ses remplois sociaux rencontrait celle des territoires de la ville, où le passé est toujours un présent en glissement sous le jeu des mémoires antagonistes. Je cite Bernard Le Petit, « C'est l'image seule de l'espace qui, en raison de sa stabilité, nous donne l'illusion de ne point changer à travers le temps et de retrouver le passé dans le présent. » Mais c'est bien ainsi qu'on peut définir la mémoire. La ville, en somme, est comme un organisme vivant dont les biologistes nous disent aujourd'hui qu'il est moins dans un état stable que stationnaire, car le temps passant, il impose sans cesse des remaniements. Et si vous voulez lire la topographie légendaire de Maurice Halvaks, bien vous pouvez la lire dans la nouvelle édition critique que les PUF, dans la collection Quadrige, ont fait paraître en 2008, où il y a différents articles de commentateurs, dont Éric Brion, qui a montré l'importance de ce concept clé de remaniement chez Maurice Halvaks. Remaniement, qui vaut à la fois pour les structures matérielles comme pour les cadres mémoriels d'une société. C'est-à-dire qu'on remanie les lieux et les traditions. Et le remaniement, ça passe toujours par trois phases. Le réinvestissement, se remémorer, c'est au fond occuper les lieux. La transaction, si on occupe les lieux, alors il va falloir s'accorder sur les interprétations concurrentes de ces lieux, parce qu'il y a plusieurs mémoires sociales d'un même espace. Et enfin, la consolidation. C'est ainsi que se transmet une tradition, c'est ainsi qu'une mémoire perdure, non pas en dépit, mais du fait même de ces transformations. Alors permettez-moi, pour conclure ce trop long préambule, une citation également trop longue de la fin du livre de Halvaks. Seulement, je le cite, « Dans cet effort d'adaptation, les hommes se heurtent à la résistance des choses, parfois des rites, des formules qui sont mécaniques, matérielles. Ici, des commémorations anciennes fixées dans des pierres, des églises, des monuments, où des croyances et les témoignages d'autrefois ont pris forme d'objets solides et durables. Il est vrai que ces objets tels qu'ils nous apparaissent résultent eux-mêmes d'une adaptation antérieure des croyances héritées du passé aux croyances du présent et, en même temps, de celles-ci aux vestiges matériels des croyances anciennes. On remonte ainsi le cours du temps. Mais quelque époque qu'on envisage, l'attention se dirige non vers l'origine de tout ce développement, mais vers les groupes de fidèles, vers les œuvres de commémoration. » Fin de la citation. Oui, le choix du guide fait parfois la beauté du voyage, et c'est en compagnie du pèlerin de Bordeaux que Maurice Halvaks chemina à Jérusalem. Laissons-nous donc guider par Halvaks lui-même pour saisir la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens de Milan. Ce qu'on y trouvera donc, c'est moins Ambroise comme origine qu'Ambroise comme premier acteur d'une œuvre de commémoration, car c'est bien l'évêque de Milan qui marqua d'une empreinte chrétienne la capitale impériale, lui imposant une nouvelle structuration de l'espace agencée dans sa configuration monumentale, même si, comme on l'aura compris, Ambroise désigne ici le nom collectif d'une entreprise sociale de mémoire. Alors, accrocher des biographèmes à des lieux et ainsi faire de la ville un espace fictionnel où les souvenirs s'arriment aux pierres, c'est très exactement ce qu'a fait Ambroise lui-même et de la basilique Sant'Ambrogio qui porte son nom et de la ville de Milan tout entière. Et c'est cela que je voudrais vous faire voir pour terminer en dézoomant, en somme, c'est-à-dire en reculant de l'Hôtel d'Or pour arriver non seulement à la basilique Sant'Ambrogio, mais également, je dirais, à la... je passe un petit peu... à l'enveloppe monumentale de Milan elle-même. Je l'avais dit, je n'y reviens pas, c'est en 386, Ambroise découvre des nouveaux corps, des nouvelles reliques, et ceux de Gervais et Protais, qui deviennent proprement les génies des lieux, arment la basilique de ces sentinelles invisibles que sont les corps des saints. Il existe des traces archéologiques de cette invention de reliques. On les a redécouvertes en 1864. Cela fait une grande ferveur dans la vie religieuse, et pas seulement religieuse, civique de Milan. Et on a découvert, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'au fond, Ambroise, non seulement a ancré les martyrs Gervais et Protais sous l'Hôtel d'Or, mais il a lui-même prévu, à sa mort en 397, eh bien, qu'il rejoindrait le même sarcophage, et c'est encore une fois les Carolingiens qui unissent ces trois sépultures. Cette manière, effectivement, de faire, vous le voyez ici dans des fouilles récentes, eh bien, s'inscrit, donc je l'avais dit, c'est la première inhumation ad sanctos milanaise, c'est-à-dire la première aimantation d'une zone funéraire par le corps des saints. La basilique Sant'Ambrogio devient alors le lieu des couronnements royaux, des cérémonies du pouvoir, des rassemblements politiques, des mobilisations partisanes, des ferveurs religieuses, des identifications civiques. Bref, elle va devenir, à partir de ce moment-là, comme la boîte noire qui enregistre tous les soubresauts de l'histoire politique lombarde. La réalité archéologique de cette histoire est désormais beaucoup mieux connue grâce à de très nombreux travaux de l'école d'archéologie chrétienne de Milan, dont les fouilles très nombreuses ont été encore tout récemment stimulées par la perspective de l'exposition universelle de 2015. Et je m'appuie ici notamment sur les travaux de Silvia Luzuar di Siena et de ses élèves qui ont renouvelé en profondeur notre compréhension non seulement de la structuration de l'espace urbain tardo-antique milanais, mais du rôle d'Ambroise dans cette reconfiguration. Alors, le temps me manque, mais aussi résumerai-je à grands traits. Le premier apport de cette recherche récente est de mieux comprendre l'intégration de la basilique, que l'on va appeler ambrosienne, à partir du moment où Ambroise y fait le don eucharistique de son propre corps, à l'intérieur du contexte urbain, du suburbium occidental, qui est celui, vous le voyez ici, d'un grand cimetière ad martyres, donc avec déjà plein de tombes préexistantes. Donc ce sont ces tombes-là qui se trouvent effectivement dans la zone, desquelles d'ailleurs on a pu extraire différents spoliae, différents des marbres, des inscriptions, mais aussi, comme vous le voyez ici, des gemmes, des pierres taillées, des émaux, qui sont d'ailleurs remployés dans l'Hôtel d'Or. Et puis, lorsqu'on ne veut pas, effectivement, que leur origine païenne, ici, la bague de quelqu'un qui s'appelle Volvinus, eh bien, soit trop visible, hop, on la met à l'envers pour que la lisibilité en soit contrariée. Mais, vous voyez, il y a tout un gisement de remploi du fait de l'ancienneté de cette zone funéraire ad martyres. Sa densité en fait non seulement un gisement de vestiges, mais également, on voit bien ici que ce qui est tout à fait, je dirais, parlant et essentiel, c'est la proximité avec le monde païen qui a évidemment une valeur politique. Parce que regardez, on se trouve tout près de l'hippodrome, l'ensemble jouxte non seulement l'hippodrome, mais l'aire du palais impérial, et la basilique porcienne, dont je parlerai la semaine prochaine, c'est-à-dire la basilique que, justement, Ambroise a occupé lors du grand conflit des basiliques de 386, où justement les empereurs veulent mettre la main sur ces basiliques, et en particulier Justine, pour précisément y imposer le culte arien, eh bien on a découvert récemment que cette basilique, dans laquelle est tout de même le premier portrait d'Ambroise lui-même, le premier portrait identifié, une mosaïque très ancienne, cette basilique donc se trouvait à San Vittore al Corpo, c'est-à-dire dans le mausolée impérial. Donc il y a une manière absolument extraordinaire, là où vous voyez, d'occuper les lieux, et des lieux impériaux, pour les resémantiser, c'est-à-dire les réorienter vers un culte chrétien. Et donc, ce réagencement global de l'espace, qui réaffecte au présent de la glorification divine les traces du passé païen, pour en rendre compte, vous voyez que ça justifie un peu mon excursus, cette extraordinaire entreprise de réaménagement des lieux de pouvoir et des circuits de mémoire, voyez comme la démarche albvaxienne s'y accorde parfaitement. Réinvestissement, transaction, consolidation. Parce que si on a encore des traces du passé impérial romain païen de Milan, c'est parce que, justement, cette politique de mémoire l'a fossilisée pour la réorienter. Ainsi, par la politique des reliques, on déplace des corps et avec eux les récits qui s'y ancrent, Ambroise a redessiné la carte de l'espace milanais. Encore une fois, je dis Ambroise ou l'ambition collective qui porte le nom d'Ambroise, mais qui lui est strictement contemporaine. Donc, vous le voyez, au nord, la Basilica Virginum, aujourd'hui San Simplicianus, au sud-est, la Basilica Apostolorum, ou Basilica Romana, San Nazaro, au sud-ouest, la Basilica Martyrum, actuelle Sant'Ambrogio. Les basiliques ambrosiennes ont polarisé précocement et profondément l'espace urbain milanais. C'est comme s'ils avaient imposé à la ville un signe de croix, comme si cette empreinte chrétienne, nord, sud, est, ouest, la marquait durablement ad modum crucis. C'est également ainsi que Marco Sannazzaro a décrit le geste architectural d'Ambroise qui impose probablement entre 382 et 385 la basilique, ça c'est Sannazzaro, la basilica apostolorum, la basilique des apôtres, et c'est entre 382 et 385 qu'il branche sur ce grand portique monumental romain, cette croix grecque, la première à être importée en Occident et qui est une réplique directe de l'Apostoleion de Constantinople. On connaît beaucoup mieux cette zone archéologique aujourd'hui grâce au percement de la ligne MM3 du métro milanais. Or, cette croix, symbole de la victoire du Christ sur la mort, vient se greffer sur un portique qui est évidemment caractéristique de l'enveloppe monumentale de la ville impériale, précisément à la Porta Romana, donc la porte qui dit bien que Milan, c'est la seconde Rome, et le prototype est là encore constantinien, puisque c'est la construction du Saint-Sépulcre à Jérusalem, branchée sur la Via Portica qui traversait la cité, qui est évidemment le prototype dont une dédicace attribue à Ambroise lui-même la paternité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le remploi immédiat, parce que vous voyez ici l'arc de triomphe qui vient conclure la voie triomphale, il a été inauguré en 375, 10 ans avant. Donc vous voyez la rapidité avec laquelle, d'une certaine manière, comme un gant qui se retourne, cette ville impériale romaine devient une ville chrétienne. Et évidemment, cela va, je dirais, imposer durablement une empreinte sur l'espace cérémoniel et politique de la cité. Depuis le XIIIe siècle au moins, les processions civiques, mais aussi les rituels politiques et les cérémonies du pouvoir consacrent cette structure de prestige et cette via, c'est pour ceux qui connaissent Milan, la via Torino, qui est la voie de prestige, en fait, de toute la vie collective, de San Lorenzo au Duomo. Et tout cela marque une empreinte durable sur la ville de Milan. Dans une œuvre de jeunesse, dans ma thèse, j'avais tenté de décrire la manière dont les basiliques ambrosiennes cernaient l'espace milanais. Alors évidemment, elles étaient à l'époque, vous voyez l'extension de la ville à l'intérieur de la muraille de Maximien, elles étaient à l'extérieur de la muraille. Mais la ville finit par, évidemment, dans son expansion urbaine, finissent par les rattraper et les déborder. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on appelait ces basiliques qui forment, vous voyez, l'auréole de sacralité qui défend Milan, qui les défend contre ces périls invisibles que sont évidemment les ennemis de la foi, etc. Donc une sorte de forteresse spirituelle comme la défense avancée de la ville, on les appelait les corpiscenti, les corsins. Ce sont les corsins qui défendent la ville. Mais au fur et à mesure que la ville s'étend, on continue à appeler corpiscenti ce qui est à l'extérieur de la ville. Même lorsque, justement, l'expansion urbaine, vous le voyez bien, a débordé les basiliques ambrosiennes paléochrétiennes. Donc, au fond, parce qu'il est plus facile de transporter les mots que les morts, eh bien, corpiscenti désigne toujours les abords de Milan. Jusqu'en 1816, vous voyez ici une représentation, c'est un plan de 1704, un plan de la ville de Milan, où vous voyez donc ici la muraille communale et puis les murs espagnols au large, les fortins de 1549. Et d'ailleurs, si on voit par Google Map, eh ben, ou Google Earth, eh ben, vous voyez encore que cette empreinte est encore très nettement visible dans la ville, puisque une des constantes de la morphogénèse urbaine, c'est que les vides durent plus longtemps que les pleins. Et donc, il y a une sorte de résilience au fond des formes urbaines, surtout lorsqu'elles marquent de leur empreinte la ville. Au temps de Charles Borromée, qui fut archevêque de Milan de 1560 à sa mort en 1584, au temps donc de la contre-réforme triomphante, comme l'a montré Marie Lesovski dans sa thèse, le pouvoir épiscopal a réactivé cette topographie légendaire des souvenirs ambrosiens à Milan en faisant justement de la capitale lombarde une ville pénitente. Telle était du moins l'exhortation qu'il ne manquait pas, Charles Borromée, se rêvant lui aussi le nouvel Ambroise, de lancer aux fidèles lors de ses sermons les 7 décembre. Le 7 décembre, c'est la Saint-Ambroise, ce n'est pas la fête de sa naissance, c'est la fête de son ordination épiscopale, car désormais, avec Borromée, le souvenir ambrosien s'est recentré sur la cathédrale, et donc ce sont des grands sermons au dôme. Mais il exhorte les pèlerins à faire le circuit des basiliques comme un tour de remémoration, non pas de la vie, mais de la parole d'Ambroise. Alors, chaque lieu dit « souviens-toi ». Telle est l'injonction que porte ces stations de mémoire, et les ostensions organisées par Charles Borromée sont, je cite Marie Lesovski, un concentré de mémoires ambrosiennes, car elles conjoignent un rite, des corsins et des lieux qui figurent dans la Vita Ambrosii. Nous revoici à notre point de départ, comme un Ambroise, un jour, retourna à son point de départ. Parce qu'Ambroise a enveloppé la ville de Milan de l'aura de son nom. Ce circuit de la mémoire, cette manière d'en faire le tour, est déjà métaphoriquement présent dans un épisode très intrigant, assez amusant, de la Vita Ambrosii. C'est le moment où Ambroise est un petit peu, par surprise, élu, vous le savez, évêque. Il n'est même pas baptisé, donc voilà. Il va falloir qu'il brûle un peu les étapes. Et dans un premier temps, il refuse son élection épiscopale. Il dit « Non, non, pas moi », etc. Il a différentes stratégies de fuite. Il met des prostituées dans sa maison pour montrer que vraiment il est indigne. Ça ne marche pas. Alors, à ce moment-là, ce qui est évidemment contradictoire, puisque l'épisode du présage des abeilles montre qu'au fond, il a l'épiscopat dans le sang, hein, que ça lui était déjà prédestiné. Donc, cet épisode est assez étrange, mais justement, bah, c'est une grande figure du pouvoir, que, évidemment, de feindre de vouloir le fuir. Et c'est très exactement ce qu'écrit Paulin de Milan, je le cite. « Il se prépara à fuir. Il sortit de la ville en pleine nuit, pensant se diriger vers le Tessin, vers Pavie, donc au sud. On le trouva au matin à la porte qu'à Milan l'on appelle de Rome. C'était Dieu qui avait empêché sa fuite, se préparant une muraille pour son église catholique. » Vous voyez le coup ? C'est une évasion ratée, quoi. Il fuit, c'est aussi l'histoire d'une désorientation, il n'a pas du tout le sens de l'orientation, il pense partir à Pavie, puis en fait il fait le tour de la ville et il se retrouve Porta Romana. Tous les chemins mènent non pas à Rome, mais à Milan, la nouvelle Rome. Il ne peut pas fuir, et ce mouvement enveloppant fait l'impossible fuite qui crée justement ce que Dieu veut à Milan, c'est-à-dire la muraille. Donc, cette histoire au fond de... C'est un nom qui gravite autour d'une ville et c'est une ville qui gravite autour d'un nom. Et d'une certaine manière, cette attirance de la mémoire, cette gravitation mémorielle, c'est ce qui, au fond, est le plus surprenant dans cette histoire. Un mot pour tenter de s'échapper de cette obsessionnelle gravitation d'un nom et d'une ville. Il faudrait évidemment pouvoir décrire les échappées belles de la mémoire d'Ambroise hors de Milan. On le pourrait assurément, le nom d'Ambroise a évidemment essaimé bien au-delà des murs de la ville de Milan. On pourrait montrer, je vais tenter de le faire, qu'il y a une carte, une géographie de la dédicace du nom même d'Ambroise, et que cette géographie dit non seulement un attachement, mais peut-être aussi, je dirais, un espace politique. Il peut y avoir un intérêt dans le diocèse de Milan à marquer ainsi par la dédicace ambrosienne une fidélité au diocèse. Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a, la liste est difficile à faire, j'ai pu la tenter à partir indirectement d'une notice de 1398. On aboutit à un total de 31 dédicaces ambrosiennes pour Milan et son diocèse, que l'on doit comparer par exemple aux 289 dédié à la Vierge, ou même aux 127 dédiés à Saint-Martin. Donc ça reste quand même assez sélectif, la dédicace milanaise. Alors je me contenterai, pour terminer tout à fait, d'évoquer un seul excursus de la mémoire d'Ambroise, hors les murs de Milan. C'est celui qui se trouve ici, voilà, Sant'Ambrogio ad Nemus. C'est le bois d'Ambroise, le lieu où se rendait Ambroise pour fuir la ville, mais pour la fuir temporairement, pour faire halte dans le cours du temps. Pétrarque, qui séjourna à Milan de 1353 à 1361, et qui séjourna justement dans une maison qui était devant la basilique Sant'Ambrogio, le décrit magnifiquement dans la Vie solitaire, 1346-1366, Vie solitaire où Pétrarque cherche dans l'Antiquité des compagnons qui furent, comme lui, des solitaires d'occasion. Il ne s'agit pas de se faire ermite, il s'agit parfois de fuir temporairement l'agitation des villes pour l'amour des lettres. Et il décrit un Ambroise qui est pleinement engagé dans le siècle, mais, je cite Pétrarque, « chaque fois que sa charge d'évêque le laissait libre et que la lourde peine qu'il prenait continuellement pour chasser les Ariens de l'Église lui donnait un peu de répit, Ce saint homme aimait à se réfugier dans une solitude plus écartée pour le peu de temps où il pouvait se soumettre à ses occupations. Tel était donc le bois d'Ambroise, qui va devenir une église, Sant'Ambrogio ad Nemus, en 1375 seulement, un monastère en fait de l'ordre des Augustins que les Sforza, à l'extrême fin du XVe siècle, prirent sous leur protection. Mais lorsque Pétrarque parle du bois d'Ambroise, il parle d'un lieu qui n'est plus. Il parle juste d'un nom qui flotte indistinct sur un non-lieu, je le cite encore. On a depuis défriché la forêt. Le lieu ayant changé d'aspect, seul le nom demeure. Le bois d'Ambroise, comme on l'appelle d'ordinaire. Pétrarque ne décrit pas autre chose qu'une trace. Il la décrit dans sa fragilité matérielle, mais aussi dans sa pérennité langagière. Il la décrit peut-être avec une sorte, pardon pour l'anachronisme, mais de mélancolie baudelairienne, où évidemment les villes changent plus vite que le cœur d'un homme, où les mots outrepassent les morts. Car puisque le corps d'Ambroise trouve un refuge en ce lieu, il suffit de le nommer pour le préserver des caprices de la fortune. De ce lieu si humble, poursuit Pétrarque, Ambroise a répandu ses fleurs aussi douces que le miel, on y revient, que sont ses livres, et dont aujourd'hui le goût si suave et le parfum si délicat ont embaumé toutes les contrées de l'Église. C'est aussi pour cela que Pétrarque s'était installé à Milan, et précisément devant la basilique Sant'Ambrogio, où il pouvait tous les jours accéder à la bibliothèque où étaient les livres d'Ambroise. Nous y accéderons, nous aussi, dans 15 jours. Nous ouvrirons l'armoire où sont déposées les œuvres complètes d'Ambroise, cette canonisation littéraire in situ qui fut l'œuvre du custode du trésor Martino Corbo au XIIe siècle. Nous ouvrirons aussi peut-être l'un des manuscrits pour y voir l'image enluminée de ce Martino Corbo qui est au pied d'Ambroise et lui offre ses propres œuvres complètes. Et voilà, au fond, la boucle complètement bouclée, puisque c'est encore cette même scène de dédicace que celle de l'autel d'or. Nous comprendrons alors que le commentaire, la glose, est à l'ordre des villes, ce que la marche est à l'ordre urbain, ce que Michel de Certeau appelait les énonciations piétonnières. Une manière, au fond, de mettre en présence les fragments dispersés du passé, de façonner des contemporanéités, une façon aussi de se heurter à ce que Maurice Alvax appelait la résistance des choses, et permettez-moi pour terminer tout à fait de redire encore une fois cette citation qui me semble frappante de la fin de la topographie légendaire, parce que précisément elle montre que cette résistance des choses, elle est celle des objets, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, mais elle est celle aussi des souvenirs immatériels, des noms, des livres, de ce qui chante dans les noms et dans les livres, et c'est le rite, c'est la liturgie qui nous sera effectivement cette manière de chanter les hymnes qui fera l'objet de la leçon de la semaine prochaine. Parfois des rites, des formules qui sont mécaniques, matérielles, ici des commémorations anciennes fixées dans des pierres, des églises, des monuments, où les croyances et les témoignages d'autrefois ont pris forme d'objets solides et durables. Voilà, je vous remercie de votre attention.